Bonjour François Thomas.
Bonjour.
Alors après 8 mois d'absence forcée, SOS Méditerranée a donc repris hier soir ses opérations de sauvetage de migrants, d'exilés dans les eaux méditerranéennes. Mais ce n'est plus l'Aquarius qui avait opéré pendant plus de 3 ans, mais l'Ocean Viking, un navire battant pavillon norvégien et qui est parti de Marseille. Comment ça s'est passé ce départ hier soir?
Oui, tout à fait. L'Ocean Viking a parié à 22h hier soir. C'était beaucoup d'émotions, beaucoup de soulagement. Émotions parce que je recevais des images en direct de la part de la cofondatrice de l'association, qui est directrice générale, Sophie Beau. Il y a eu beaucoup d'attentes. L'Aquarius a été restitué à son armateur, comme vous le savez, le 31 décembre 2018. Donc plus de 7 mois d'attente. Pour tous les bénévoles, tous ceux qui s'engagent avec SOS Méditerranée, qui est une association européenne. Et puis, oui, un sentiment de soulagement également, parce qu'il y a eu un travail énorme de fait par les opérations, mais également par l'ensemble des gens, des personnes qui s'engagent avec SOS Méditerranée, ce réseau européen. Voilà. Et c'est vraiment les deux sentiments que nous avions. Maintenant, bon, il faut bien sûr mesurer ses sentiments, puisque le navire est parti, il va aller sur une zone où potentiellement nous allons trouver des rescapés, donc des zones où il y a des drames. Et donc il faut mesurer ces sentiments. Voilà.
Oui, le travail commence et les difficultés aussi. On s'en rappelle, l'Aquarius avait dû changer de pavillon. Votre association avait fait l'objet de menaces de poursuite de la part du gouvernement italien notamment. Et puis plus récemment, d'autres ONG, des capitaines de navires de secours ont même été incarcérés. Les débarquements, eux, ont été interdits ou en tout cas empêchés à de nombreuses reprises. Quelle va être votre stratégie cette fois? Comment on fait finalement face à toutes ces difficultés pour mener à bien cette mission première qui est la vôtre, c'est-à-dire sauver des gens en mer?
Déjà, nous sommes toujours inscrits dans la légalité. Nous respectons strictement toutes les conventions maritimes internationales. Et la criminalisation des ONG n'est malheureusement pas quelque chose de nouveau. Nous l'avons subi beaucoup de difficultés avec l'Aquarius, comme vous l'avez mentionné. Problème de pavillon, des pressions de l'Italie, d'autres pressions diverses. Et malheureusement, c'est ça qui a amené à se séparer de ce navire. Nous allons, nous sommes en route pour aller donc en Méditerranée centrale, au-delà des, certainement pas dans les eaux territoriales libyennes, hein, donc dans une zone qui se situe au-delà des 24 000, c'est-à-dire environ un peu plus de 150 km des côtes libyennes. Et potentiellement, nous allons donc là où des situations de détresse avec des petites embarcations peuvent se produire.
Alors justement, quelle est la situation actuellement? Parce que vous dites, on ne va pas rentrer dans les eaux libyennes, mais vous êtes sur les fameux, ce qu'on appelle les couloirs de migration qui remontent de la Libye, de la Tunisie vers Malte, vers l'Italie essentiellement. Aujourd'hui, vous, SOS Méditerranée, qu'est-ce que vous savez de la situation sur place? Quelle est la situation de ces couloirs de migration?
On l'a vu récemment, ces couloirs continuent. La situation en Libye est terrible, absolument terrible. Il y a beaucoup de témoignages qui viennent de représentants des Nations Unies, d'ONG, de différentes personnes qui sont sur place, et puis également de toutes les personnes qui ont été sauvées par d'autres ONG ou dans le passé également par SOS Méditerranée. Ce qui se passe, c'est les viols, c'est les tortures, c'est les exactions, les exécutions sommaires. Donc les personnes qui sont là-bas, c'est une question de survie, elles doivent partir. Voilà. Donc il y a donc des petites embarcations qui partent et malheureusement elles n'arrivent pas toutes au bout de leur voyage. Elles sont c'est vraiment des situations très précaires, très dangereuses. Et on l'a vu récemment, il y a eu un drame encore avec plus de 100 personnes noyées. Les chiffres sont absolument abominables. Il y a plus de 20 000 morts ces dernières années. Depuis le début de l'année, il y a 576 morts déclarés en Méditerranée centrale.
Alors justement, quand vous dites déclarés, c'est-à-dire que selon vous, ce chiffre est sous-estimé ?
Ce chiffre est certainement sous-estimé, puisque c'est des statistiques qui viennent de l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, et que il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Voilà. Et encore une fois, cette situation en Libye, dont on parlait il y a quelques instants, elle est confirmée par l'OIM, elle est confirmée par le Haut Commissariat pour les réfugiés et également par des officiels de la Commission européenne. Madame Mogherini l'a déclaré également, les ports libyens ne sont pas des lieux sûrs.
Alors justement, vous parlez de la Libye, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez rester dans un cadre légal, ne pas entrer dans les eaux territoriales libyennes. Malgré tout, comment ça va se passer avec les gardes-côtes libyens qui sont financés par l'Union européenne, qui ont même reçu des navires hein, de la part de la France notamment. Comment ça va se passer concrètement avec ces gardes-côtes qui finalement sont chargés, à qui on a l'Europe a donné la charge de gérer ces couloirs de migration?
Alors, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Les gardes-côtes libyens sont financés par l'Union européenne. D'après les conventions internationales, il y a une grande zone, ce qu'on appelle les zones SAR, qui a été attribuée à la Libye en matière de sauvetage. Ces zones sont immenses. Elles sont décidées en fonction de potentielles catastrophes maritimes ou catastrophes aériennes, de crash, pour organiser les secours. Donc, nous sommes dans cette zone et nous devons impérativement, selon la loi, les conventions internationales, contacter les gardes-côtes libyens. Donc c'est ce que nous allons faire. S'ils nous répondent, les contacts se font par téléphone et par email, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous demander de ramener ces rescapés dans les ports libyens.
Et c'est ce que vous allez faire?
Voilà. Et certainement pas, parce que les conventions internationales sont également très claires. Nous devons ramener les rescapés dans un lieu sûr. Un lieu sûr, c'est un endroit où leurs droits fondamentaux sont respectés et on peut les soigner, les nourrir et éventuellement étudier leur statut.
Voilà. Donc si l'on comprend bien, si vous récupérez des gens qui sont naufragés, des rescapés de naufrage, ils n'iront pas vers la Libye, donc vous allez vous diriger vers l'Europe, sauf que les pays européens aujourd'hui ne veulent pas ou limitent au maximum les débarquements.
À partir de ce moment-là, nous allons attendre qu'on nous donne, que les États concernés nous donnent les instructions pour savoir où est-ce que nous pourrons débarquer ces rescapés qui sont à bord. Voilà. Donc, les conventions internationales, encore une fois, sont très claires. Ces personnes, ces rescapés, doivent être débarqués le plus rapidement possible. Ils ont subi des traumatismes. Certains sont blessés, sans compter le traumatisme, évidemment, des risques qu'ils ont pris en mer.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe si tous les gouvernements auxquels vous adressez disent non? Si l'Italie dit non, si la France dit non, si Malte dit non, si l'Espagne dit non? Vous allez faire comme ce qui s'est passé en Italie avec le Sea-Watch, forcer l'entrée d'un port et essayer de débarquer, ou en tout cas vous amarrer?
Encore une fois, nous restons totalement dans la légalité. Il n'est pas question pour nous d'aller forcer les eaux territoriales italiennes si elles ne sont fermées. Ce qui va se passer, quand même, il y a un certain espoir. On l'a vu cet an dernier, il y a eu cette réunion à Paris des ministres des Affaires étrangères européens. Une réunion est prévue à Malte et nous espérons que des solutions seront trouvées, et que nous n'allons pas rester évidemment des semaines et des semaines à attendre. Voilà. On l'a vu, j'ai vu qu'il y avait eu un accord pour le débarquement des rescapés de l'Alan Kurdi. Pour nous, il est hors de question d'attendre longtemps. Mais un navire n'est pas fait pour ça, si vous voulez.
L'espoir est donc là. Merci François Thomas, donc vous êtes, je rappelle, le président de SOS Méditerranée en France. Merci beaucoup.